La mort de Glaurung. Il faisait nuit noire lorsque Turambar et ses compagnons gagnèrent enfin Kabed en Arras, et ils furent bien aises de la stridente rumeur de l'eau. Car si elle promettait une traversée périlleuse, elle couvrait tous les autres bruits. Alors Dorlas les conduisit un peu à l'écart, vers le sud, et par une fissure ils descendirent jusqu'au pied de la falaise. Mais là, le cœur lui manqua, car quantité de rochers et de grosses pierres envahissaient la rivière et l'eau tourbillonnait sauvagement alentour en faisant grincer ses dents.
« Voici le chemin d'une mort certaine, » dit Dorlas.
« C'est l'unique chemin ou de la mort ou de la vie, » dit Turambar. « Et hésiter n'y ajoutera nul espoir. Aussi, suivez-moi. » Et il passa le premier. Et par adresse et intrépidité, ou par arrêt du destin, il atteignit l'autre rive et se retourna pour voir qui venait à sa suite. Une sombre silhouette se tenait à ses côtés. « Dorlas ? » dit-il.
« Non, c'est moi, » dit Hunthor. Dorlas a flanché au passage, car un homme peut aimer la guerre et pourtant craindre maintes choses. Il est là, je pense, assis à trembler sur la rive, et honte à lui pour les paroles qu'il a adressées à mon parent. »
Alors Turambar et Hunthor se reposèrent un peu, mais bientôt le froid de la nuit les saisit, car ils étaient tous deux ruisselants, et ils se mirent en quête d'un chemin qui longerait au nord le torrent en direction du lieu de repos de Glaurung. Le ravin se faisait là plus sombre et plus étroit, et tandis qu'ils avançaient à tâtons, ils entrevirent au-dessus d'eux une lueur tremblotante, comme d'un feu qui couve, et ils entendirent les grognements du grand ver dans son sommeil vigilant. Et ils cherchaient à l'aveugle manière à s'approcher du rebord de l'abîme, car en cela tenait tout espoir d'atteindre leur ennemi à l'abri de sa bonne garde. Mais l'odeur était maintenant si fétide que la tête leur tournait, et en cours d'escalade ils glissaient et s'agrippaient aux racines des arbres, en proie à des haut-le-cœur et oublieux dans leur misère de toute peur autre que celle de choir dans les mâchoires du Teiglin. Alors Turambar dit à Hunthor, « Vainement nous dépensons nos forces déclinantes, car tant que nous ne sommes pas fixés sur l'endroit où passera le dragon, cela ne sert à rien de grimper.
Mais lorsque nous le saurons, dit Hunthor, il ne sera plus temps de chercher comment nous tirer de l'abîme.
C'est juste, dit Turambar. Mais là où tout est une affaire de chance, c'est à la chance qu'il nous faut nous confier. Alors ils firent halte et attendirent. Et du tréfonds du ravin obscur, ils contemplèrent le lent cheminement d'une blanche étoile dans les hauteurs qui traversa le pâle sillon de ciel. Et Turambar plongea dans un rêve dans lequel sa volonté était tout entière tendue à s'agripper, en dépit du noir courant qui le happait et lui rongeait les jambes. Soudain, il se fit un grand bruit, et les parois du gouffre vibrèrent et résonnèrent. Et Turambar s'éveilla et dit à Hunthor,
« Il bouge, voici l'heure. Frappe fort car nous ne sommes plus que deux, et il nous faut frapper pour trois. »
Et c'est ainsi que Glaurung commença son attaque sur Brethil. Et tout se passa comme l'avait espéré Turambar. Car le dragon rampait désormais pesamment jusqu'au bord de la falaise et ne dévia point. Et il s'apprêtait à se projeter au-dessus du gouffre grâce à ses puissantes pattes de devant, traînant sa masse derrière lui. Et avec lui venait la terreur. Car il n'entreprit pas la traversée du gouffre juste au-dessus des guetteurs, mais un peu au nord. Et il pouvait voir l'ombre gigantesque de sa tête contre les étoiles. Et ses mâchoires étaient béantes, et il avait sept langues de feu. Alors il vomit un jet de flamme, de sorte que le ravin s'emplit d'une lumière rouge, et les ombres noires volaient de rocher en rocher. Mais les arbres l'environnant séchaient sur pied et se consumaient, et les pierres déboulaient dans la rivière. Et incontinent, il se rua en avant et s'agrippa à la distante falaise de ses puissantes griffes, puis commença à haler sa masse au travers du ravin. Audace et promptitude étaient requises en cet instant, car si Turambar et Hunthor avaient échappé au jet de flamme, ils ne se trouvaient pas exactement sur le chemin de Glaurung, et il leur fallait coûte que coûte l'atteindre avant qu'il soit passé de l'autre côté, faute de quoi tout espoir serait perdu. Insoucieux du danger, Turambar s'élança le long de la rive pour se placer sous le dragon. Mais là, la chaleur et la puanteur étaient si épouvantables qu'il chancela et serait tombé si Hunthor, qui le suivait bravement pas à pas, ne lui avait pas saisi le bras pour le retenir.
« Noble cœur !» s'écria Turambar.
Heureux le choix qui te donna à moi pour compagnon. » Mais comme il prononçait ces mots, un énorme bloc de pierre se détacha d'en haut et frappa Unthor à la tête, le projetant dans la rivière, et il mourut, de la maison de Haleth non le moins valeureux. Alors Tulambar s'écria, « Hélas, il est mauvais de marcher dans mon ombre. Pourquoi ai-je recherché de l'aide? Car à présent tu es seul, ô maître du destin, comme tu savais que cela devait être. À présent, il te faut vaincre seul à seul. » Et il s'arma de toute sa volonté, et appela à lui toute sa haine pour le dragon et son maître, et il lui sembla soudain qu'il éprouvait une force d'âme et de corps qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il gravit la colline, pierre par pierre, racine par racine, jusqu'à ce qu'il puisse enfin s'agripper au dernier arbrisseau, poussant un peu au-dessous du bord du gouffre, et bien que la cime de l'arbre fût calcinée, il tenait encore solidement par ses racines. Et comme Tulambar se stabilisait dans la fourche de ses branches, la partie centrale du dragon vint se placer juste au-dessus de lui et, ballotté par son lourd poids, lui effleura presque la tête avant que Glaurung ait réussi à relever son corps. Blême et ridée était cette panse, d'où suintait une humeur visqueuse et sur laquelle s'agglutinaient toutes sortes d'immondices dégoulinants. Et ça empestait la mort. Alors Tulambar tira la noire épée de Beleg et de toute la force de son bras et de sa haine, frappa vers le haut, et la terrible lame longue et avide pénétra le ventre jusqu'à la garde. Lors, se sentant touché à mort, Glaurung poussa un rugissement tel que toute la forêt frémit et que les guetteurs de Nengirith furent saisis d'horreur. Tulambar chancela comme s'il avait reçu un coup et il s'affaissa, et son épée lui fut arrachée du poing et demeura fichée dans le ventre du dragon. Car en un spasme puissant, Glaurung souleva toute sa masse frémissante et se projeta au travers du gouffre. Et une fois sur l'autre rive, il se tordit de douleur en hurlant, fouettant l'air de tous côtés et se convulsant dans les affres de l'agonie, tant et si bien qu'il ravagea autour de lui un vaste espace. Et dans la fumée et la désolation, il demeura là, gisant, et alors ne bougea plus. Or Tulambar se retenait aux racines de l'arbre, étourdi et quasiment anéanti. Mais il lutta contre lui-même et se redressa, et moitié glissant, moitié grimpant, il descendit jusqu'à la rivière, et il tenta de nouveau la périlleuse traversée, rampant cette fois sur les mains et sur les genoux, se cramponnant ici et là, aveuglé par l'écume, jusqu'à regagner enfin l'autre rive pour se hisser péniblement le long de la fissure par où ils étaient passés. Et il parvint ainsi jusqu'à l'endroit où le dragon agonisait. Et il contempla son ennemi frappé à mort, et n'éprouva nulle pitié. Et il se réjouit. Or donc Glaurung gisait là, les mâchoires béantes. Mais ses feux s'étaient tous consumés, et son œil maléfique était clos. Il était étendu de tout son long et tourné sur le côté, et la garde de Gurthang se dressait, plantée dans son ventre. Lors, le cœur de Tulambar exulta de joie, et il voulut recouvrer son épée, bien que le dragon respirât encore, car pour précieuse qu'elle lui était auparavant, elle valait maintenant à ses yeux tous les trésors de Nargothrond. Car se vérifiaient ainsi les paroles prononcées au feu de la forge, que mordu par elle, rien ne survivrait, grand ou petit. Aussi il s'approcha de son ennemi et, posant le pied sur son ventre, il empoigna Gurthang par la garde, et déployant toutes ses forces, il la retira. Et il s'exclama en dérision des paroles du dragon à Nargothrond, « Salut à toi, vers de Morgoth, heureuse retrouvaille, meurs à présent et que les ténèbres t'emportent. Ainsi, Turin, fils de Hurin, a tiré sa vengeance. » Il arracha alors l'épée, mais un jet de sang noir jaillit aussitôt sur sa main et le venin lui brûla la peau, et il poussa un cri de souffrance. Sur ce, Glaurung frémit, et il ouvrit ses sinistres prunelles et darda sur Tulambar un regard si maléfique qu'il lui sembla qu'une flèche le transperçait. Et ce coup s'ajoutant à une âpre douleur à la main, le plongea dans la torpeur, et il tomba comme mort aux côtés du dragon, couché sur son épée. Or les cris de Glaurung étaient parvenus jusqu'aux oreilles de ceux qui attendaient à Nengirith, et l'effroi s'empara d'eux. Et lorsque les guetteurs entrevirent de loin les grands ravages et incendies causés par le dragon dans les affres de son agonie, ils crurent qu'il piétinait et massacrait ses assaillants. Et certes, ils souhaitèrent alors que fût bien plus grande la distance qui le séparait d'eux.
mais ils n'osaient pas quitter le haut lieu où ils s'étaient rassemblés, car ils se souvenaient de ce que leur avait dit Tulambar, que si Glaurung triomphait, il viendrait droit sur Efelbrandir. Ainsi ils observaient, terrifiés, en quête de tout indice de sa progression. Mais aucun ne fut assez hardi pour descendre s'informer sur les lieux du combat. Et Niniel était là, assise, et elle ne bougeait pas, sauf pour le tremblement qui l'agitait, et elle ne pouvait apaiser ses membres. Mais lorsqu'elle perçut la voix de Glaurung, son cœur se mourut en elle, et elle sentit de nouveau les ténèbres l'envahir. C'est en cet état que Brandir la trouva. Cheminant lentement et péniblement, il avait atteint le pont au-dessus du Celebros, et s'aidant de sa béquille, il avait boitillé tout seul le long de la route, cheminant 5 lieues depuis sa maison. Son angoisse pour Niniel l'avait poussé à continuer, et maintenant, les nouvelles qu'il apprit n'étaient guère pires que ce qu'il avait redouté.
« Le dragon a franchi la rivière !» lui dirent les hommes. « Et le Noir Épée est mort, assurément, et ceux qui sont allés avec lui !»
Alors Brandir s'approcha de Niniel, et il devina sa détresse, et il se languissait d'elle. Mais il pensa cependant, « Le Noir Épée est mort, et Niniel vit !» Et il frissonna, car le froid, semble-t-il, se fit soudain plus âpre près des eaux de Nengilith, et il jeta son manteau sur les épaules de Niniel. Mais il ne trouva pas un mot à dire, et elle ne parla point. Le temps passait, et Brandir se tenait toujours silencieux à ses côtés, scrutant la nuit et écoutant. Mais il ne voyait rien et n'entendait aucun bruit, hors le fracas des chutes, et il songea « À présent, Glaurung est certainement parti, et il est entré à Brethil. » Mais il n'éprouvait plus aucune pitié pour son peuple, ces misérables, qui avaient dédaigné ses avis et bafoué sa personne. « Que le dragon aille donc faire un tour sur la Mon Obel. Cela nous donnera le temps de nous échapper, et je pourrai emmener Niniel au loin. » Où, il ne le savait guère, car il n'avait jamais voyagé au-delà de Brethil. Enfin, il se pencha et effleura Niniel au bras, et il lui dit « Le temps s'écoule, Niniel. Viens, il est temps de s'en aller. Si tu le veux bien, je te conduirai. » Alors elle se releva en silence et prit la main de Brandir, et ils franchirent le pont et descendirent le sentier qui conduisait au passage du Teiglin. Mais ceux qui les virent se mouvoir comme des ombres dans l'obscurité ignoraient qui ils étaient, et point ne s'en souciaient. Et ils marchèrent quelque temps parmi les arbres muets, quand la lune se leva au-delà de la Mon Obel, et une lumière cendrée emplit les clairières de la forêt. Alors Niniel s'arrêta, et dit à Brandir, « Est-ce là le chemin ?» Et il répondit, « Quel est donc le chemin ? Car morts sont tous les espoirs que nous mettions à la forêt de Brethil. De chemin nous n'en avons point, sauf à échapper au dragon et à fuir aussi loin que possible tant qu'il est encore temps. » Niniel le considéra avec étonnement et lui dit, « Ne m'as-tu pas proposé de m'amener à lui ? Où me tromperais-tu ? Le Noir Épée était mon bien-aimé et mon époux. C'est seulement pour le retrouver si je m'en vais. Que croyais-tu donc ? Maintenant fais ce qu'il te plaît, mais quant à moi, je dois me hâter. » Et comme Brandir restait là interdit un instant, elle prit soudainement son vol. Et il l'appela, criant,
« Attends, Niniel, ne t'en va pas toute seule. Tu ne sais pas ce que tu vas trouver, je viens avec toi. »
Mais elle ne l'écoutait point, et allait maintenant comme si en elle flambait un sang qui tout à l'heure était glacé. Et bien qu'il suivît au mieux de ses forces, elle disparut promptement à sa vue. Alors il maudit son destin et sa défaillance, mais ne voulut pas rebrousser chemin. Et la lune monta au firmament, toute blanche et presque en son plein, et comme Niniel descendait du plateau vers les basses terres au bord de l'eau, elle crut se remémorer les lieux, et elle fut saisie d'épouvante. Car elle se trouvait au passage du Teiglin, et le Haun El-Eleth se dressait devant elle, diaphane dans la clarté lunaire et traversé d'une ombre noire. Et du tertre émanait une grande épouvante. Et elle se détourna avec un cri et prit la fuite vers le sud, le long de la rivière. Et tout courant, elle rejeta son manteau comme se dépouillant de ténèbres qui lui tenaient au corps. Et elle était entièrement de blanc vêtue. Et voltant parmi les arbres, elle scintillait sous la lune. Tel l'entraperçut Brandir du haut de la colline, et il bifurqua pour tenter, s'il le pouvait, de lui couper le chemin. Et découvrant par chance l'étroit raccourci que Tulambar avait emprunté, car ils s'écartaient des chemins battus et dévalaient l'escarpement sud jusqu'à la rivière, Brandir la rattrapa de nouveau. Eila est là, mais elle n'y prêta pas attention, ou n'entendit pas, et bientôt elle le distança une fois de plus et filait en avant. Et ils s'approchèrent ainsi des bois qui environnaient Kabed en Arras et du lieu où agonisait Glaurung.